Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, une édition spéciale sur les élections américaines.
Rien n'est décidé pour le moment. On ne sait pas qui de Clinton ou de Donald Trump sera le prochain président des États-Unis. Idrissa Seydoudia en votre compagnie, en compagnie de Timothée Dorangmaï. Donc, rien n'est décidé dans l'élection présidentielle aux États-Unis. Pour l'instant, on attend de savoir qui de Donald Trump, le candidat républicain, ou de Hillary Clinton, l'emportera et sera le prochain président des États-Unis, l'homme ou la femme qui remplacera Barack Obama à la Maison-Blanche. À mes côtés, Jean-Roger Bion. Jean-Roger, que se passe-t-il?
Bonsoir Idrissa Seydoudia, bonsoir Timothée, bonsoir à tous les auditeurs. D'après les résultats en haute possession recueillis par donc VO Afrique, le candidat républicain Donald Trump avait remporté aux environs de 5 heures du matin, 5 heures GMT, 233 grands électeurs sur les 270 nécessaires pour gagner la présidentielle aux États-Unis, contre 209 à sa rivale démocrate Hillary Clinton. C'est les résultats que notre station a en sa possession en ce moment. Il y a bien sûr des spéculations sur les autres chaînes. Le candidat républicain a délivré donc un coup sévère à Madame Clinton en gagnant surtout la Floride et la Caroline du Nord, des États très disputés qui lui ont apporté 44 grands électeurs. Les résultats restent encore incertains dans le Michigan et le Wisconsin, deux États clés que les pronostics d'avant scrutin donnaient à Madame Clinton, mais où l'issue du vote semble désormais très incertaine. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut 270 grands électeurs pour remporter l'élection présidentielle. Et notre, au chapitre des réactions, notre correspondante à la voix à la Maison-Blanche nous dit que c'est le calme plat de ce côté.
Merci Jean-Roger. Nous vous retrouverons tout au long de cette matinée pour les derniers résultats. Alors, nous nous rendons tout de suite à New York pour y retrouver Nicolas Pineau, qui se trouve d'ailleurs dans la grande métropole avec Tatiana Mousseau. Tatiana est du côté de Hillary Clinton. Nicolas, vous êtes du côté de Donald Trump. Alors, quelle est l'atmosphère?
Eh bien, écoutez, évidemment, vous l'imaginez, un grand sourire ici du côté des Républicains. Je me trouve à l'hôtel Hilton. Nous sommes en plein cœur de Manhattan, à quelques pas de Times Square. Le candidat républicain qui ne s'est toujours pas exprimé, qui n'est toujours pas arrivé ici au Hilton, il attend toujours évidemment les derniers résultats. On rappelle les derniers chiffres en possession de Voice of America. 245 grands électeurs pour Trump, 215 pour Hillary Clinton. Ça reste très serré, mais il faut le dire, la confiance est du côté des républicains, puisque depuis le début de la soirée électorale, c'est le candidat qui est en tête. Pourquoi? On l'a dit, il a gagné dans les grands états clés, les swing states, comme on dit ici, notamment la Floride, l'Ohio, la Caroline du Nord. C'est encore incertain dans des états comme le New Hampshire, comme le Michigan ou encore comme le Minnesota, qui étaient des fiefs démocrates depuis les 5-6 dernières présidentielles. C'est dire si la poussée populaire au niveau du vote pour le candidat républicain est certaine. Donald Trump avait prédit qu'il ferait déjouer les sondages, et pour le moment, en tout cas, même si rien n'est joué, le suspense demeure. Pour le moment, en tout cas, il a réussi à faire déjouer les pronostics.
Timothée?
Oui, alors Nicolas Pineau, la victoire de Donald Trump en Floride aura été un sévère coup, tant au plan du nombre des grands électeurs qu'au plan psychologique, puisqu'on avait parlé jusqu'ici de la montée des électeurs hispanique dans cet État et qui allait profiter aux démocrates.
Et c'est un coup cinglant, hein, on le disait, si on rappelle, Timothée, 2012-2008, c'est Barack Obama qui s'était imposé dans cet État-clé. Il n'en fut pas le cas aujourd'hui. Et vous l'avez dit, notamment la mobilisation des électeurs hispaniques. On a annoncé 42 millions de votants, d'électeurs qui se sont mobilisés pour le early vote, le vote anticipé. Et parmi ces 42 millions, on avait annoncé une forte poussée des électeurs latinos, notamment dans cet état clé qu'est la Floride. Bien, pour le moment, en tout cas, ça ne suffit pas, puisque cet état rebascule dans le giron républicain. À noter également, du côté des républicains, la réélection du sénateur Mario Rubio. Mario Rubio, on se souvient, il avait été candidat à la primaire républicaine, farouche adversaire de Donald Trump. Il est rentré dans le rang depuis et a soutenu la candidature de Donald Trump. Mais c'est aussi à noter pour la recomposition du Parti républicain en cas de possible victoire à la présidentielle autour de Donald Trump.
Merci Nicolas Pino. Nous espérons avoir tantôt Tatiana Mosso qui est du côté de Hillary Clinton, toujours à New York. En attendant, Timothée, laissez-moi dire à nos auditeurs que nous espérons avoir avec nous Christophe Fomugno, qui est directeur pour l'Afrique au NDI, ici à Washington. René Lake, consultant, journaliste, directeur du site CNE+, et partisan d'Hillary Clinton. Et aussi le professeur Ngemi Ya Lengi, historien d'origine congolaise, qui a enseigné à City College de New York. Aussi le professeur Edgar Colli. Newton Ahmed Barry, qui est président de la CENI du Burkina. Nous espérons avoir tous ces invités au cours de cette émission. En attendant, nous avons René Lake. René Lake, qui est un partisan de Hillary Clinton, il faut le dire. René, une surprise.
Ah, une très très grande surprise, Idrissa. La première des surprises pour moi, ça a été la Floride. C'est vrai que c'est serré, mais sincèrement, je pensais que Hillary Clinton pourrait l'emporter. Mais en fait, la vraie surprise pour moi en Floride, c'est même pas tellement que Trump gagne, parce que c'est vrai que c'était quand même serré, même au niveau des sondages, mais c'est l'absence d'une grande mobilisation de la communauté hispanophone. Alors ça, j'avoue que je n'en reviens toujours pas. J'étais sur, j'ai passé la soirée sur une radio concurrente à la vôtre, et je vous avoue que j'ai vraiment pas... Je n'ai cessé de parler de cet aspect-là. Alors, je ne sais pas si c'est propre simplement à la Floride et que dans les autres États, notamment dans le Nevada et dans l'Arizona, la communauté hispanique s'est beaucoup mobilisée. Mais je sais que pour l'instant, les chiffres que nous avons au niveau de la campagne d'Hillary Clinton, c'est que les Hispaniques se sont même moins mobilisés qu'en 2012 pour Barack Obama. Et paradoxalement, ce qui est très étonnant, les Noirs se sont même plus mobilisés pour Hillary Clinton en 2016 qu'en 2012. En tout cas, d'après les chiffres que nous avons,
merci.
Bien entendu, tout cela sera confirmé.
Merci René, restez avec nous. Nous retournons à New York pour y retrouver Tatiana Mosso. Tatiana, quelle est l'atmosphère du côté de Hillary Clinton?
Bonsoir Idriss, bonsoir à tous. Alors je ne vous cache pas que c'est une atmosphère plutôt triste ici au Jarvis Center, puisque le peu de gens enthousiastes encore, ou ceux qui ont encore un peu d'espoir que nous avons croisé, nous disent ce n'est pas normal, on n'en revient pas, on ne pensait pas que ça irait jusque-là. Plusieurs personnes ont déjà quitté la salle, le visage fermé, quand elles ont vu les résultats égrenés au fur et à mesure, et notamment les résultats tels que ceux du Wisconsin, où ils pensaient que Hillary Clinton pourrait le remporter facilement. On avait le sénateur a perdu son siège, donc finalement ça donnait un résultat négatif. Et quand on regarde une carte un peu plus élargie, les résultats sont très serrés mais pas suffisants. Et les démocrates que nous avons croisés ici ce soir sont plutôt pessimistes pour la suite.
Merci Tatiana. Timothée, vous avez la carte, n'est-ce pas, près de vous. Vous voyez très bien où est-ce que ça risque maintenant de se jouer.
Alors, on a donc le Michigan, un État traditionnellement démocrate, où Madame Clinton était censée s'imposer. Eh bien, le Michigan est en jeu en ce moment. Les républicains, Donald Trump, a réussi à mobiliser des électeurs là-bas, si bien qu'il y est très compétitif. On a aussi le Wisconsin, un autre État démocrate, où le jeu est loin d'être fait grâce aux efforts de Donald Trump là-bas. Et il y a également, on suit la situation au Minnesota, le Minnesota, et qui est un autre États où normalement les démocrates devraient s'imposer. Et dans tous ces États-là, aujourd'hui, M. Trump a réussi à mobiliser des électeurs, si bien qu'il est aujourd'hui très difficile de prédire l'issue du scrutin dans ces États. Et c'est là que va se jouer cette présidentielle 2016 ici aux États-Unis.
Pour le moment, donc, pour un rappel aux auditeurs, Hillary Clinton, la candidate démocrate, a 200... résultats ici. 215.
Voilà, 215.
215 grands électeurs, la démocrate Hillary Clinton, et le républicain Donald Trump a 245, et il faut 270 grands électeurs pour devenir président ou présidente des États-Unis.
Et Donald Trump qui n'a plus besoin que de 25 grands électeurs pour atteindre l'objectif.
Et encore, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on attend les résultats du Michigan, on attend les résultats du Wisconsin et du Minnesota.
La Pennsylvanie également.
La Pennsylvanie n'est pas encore décidée et pourtant c'était un État qu'on disait carrément démocrate.
Tout à fait.
Alors donc... on me signale de l'autre côté de la vitre que nous avons le professeur Ngemi Ya Lengi, qui est historien d'origine congolaise. Il a enseigné à City College de New York. Alors, professeur, quelles conclusions tirez-vous jusqu'à présent des résultats qui tombent sur cette élection présidentielle?
Oui, vraiment. D'abord, merci beaucoup pour votre invitation. C'est la deuxième émission que je fais en français depuis que je suis aux États-Unis, il y a plus de 35 ans. Donc, je suis content que je n'ai pas vraiment oublié mon français du Congo Zaïre. Alors, pour les élections aux États-Unis, ben, je ne sais pas si c'est mon avis que vous voulez savoir, mais sinon, je vais vous dire que la population congolaise des États-Unis, c'est-à-dire les Congolais américains, ont mené une campagne.
Professeur, pour le moment, on était en train de voir comment interpréter ce qui s'est passé, puisque les sondages semblaient donner l'avantage jusqu'à hier soir à Hillary Clinton. Et là, comment dirais-je, il semble que Donald Trump, le républicain, est bien placé maintenant pour éventuellement remporter cette élection. Alors comment voyez-vous ça?
Nous pouvons interpréter ça de la manière que les sondages n'étaient pas vraiment scientifiques, parce que les sondages prédisaient qu'il arrive à gagner. Mais alors, scientifiquement, c'est-à-dire, comme on dit toujours, il y a des Américains chez qui on ne partait pas poser la question de savoir s'ils vont voter pour Hillary ou pour Donald Trump. Ça, c'est un. De deux, il y a ceux des électeurs qui répondaient qu'ils allaient voter pour Hillary, mais quand ils sont allés voter, ils avaient en soi un autre choix. Bon. Et il y a plusieurs raisons qu'on avance pour cela. On dit que parce que, bon, voilà, tout le monde diabolisait Donald Trump, tout le monde accusait Donald Trump, tout le monde disait que Donald Trump n'était pas qualifié. Alors, il y a des gens qui ne voulaient pas dire la vérité du choix qu'ils allaient faire. Donc, comme il disait lui-même,
c'était son Brexit, la surprise qu'il réservait au peuple américain.
Voilà.
Merci. Alors, on essaie de retrouver un peu René Lec parmi nos analystes. René, vous êtes là encore avec nous?
Oui, je suis bien en ligne, Idrissa.
Bon, apparemment, il y avait un courant, qui n'avait pas été détecté par les analystes et les politologues dans ce pays.
Oui, tout à fait. Je crois, comme je le disais tout à l'heure, je crois déjà l'attitude, la mobilisation latino, des hispaniques n'a pas été au niveau auquel, on s'attendait. Je sais que c'est le cas, en tout cas, des projections que l'on faisait au niveau de la campagne d'Hillary Clinton. Et je pense que, bon, beaucoup d'analystes, même sans être partisans, faisaient. Je vois qu'en ce moment où on se parle, Idrissa,
Donald Trump a quoi? À peu près 35 000 voix de plus qu'Hillary Clinton en Pennsylvanie. Comme vous le disiez tout à l'heure, c'était même pas un État qui était que l'on considérait comme un État charnière. On pensait que c'était un État solidement bleu. Le Michigan également, c'est un État qui, c'est vrai, lui, on en a un peu plus parlé parce que c'est un peu la même démographie que l'Ohio. Et l'Ohio, en tout cas en ce qui me concerne, c'était à peu près certain qu'il gagnerait. Et il faut également rappeler à vos auditeurs, Idrissa, c'est que le cinéaste, le spécialiste de documentaire Michael Moore, lui-même depuis plusieurs semaines, a beaucoup, beaucoup insisté sur la question des risques dans le Michigan. Il a même fait un film qui s'appelle Michael Moore dans le pays de Trump, Trump Land, et il pose le problème là en disant attention, René, il faut que les démocrates fassent très attention. Oui, Idrissa.
Oui, en fait, concernant le Michigan, on rappelle très souvent d'ailleurs que lors des primaires, on pensait que ça allait à Hillary Clinton et à la grande surprise de tout le monde, c'était allé à Bernie Sanders. Donc, c'est pas la première fois que le Michigan. Mais on pourrait revenir sur les raisons pour lesquelles peut-être le message passait plus facilement pour Bernie Sanders et Donald Trump dans cette région du Midwest. Alors, on me signale que nous avons notre ami, notre collègue Roger Muntu devant la Maison-Blanche. Roger, comment ça se passe devant la Maison-Blanche?
Idrissa, c'est Doudia. Écoutez, je suis juste devant la Maison-Blanche. Je suis ici aussi avec notre collègue Anastasie Tudiech. On revenait juste d'un restaurant à Silver Spring, Maryland, et en rentrant chez nous à la maison, on a trouvé une très grande foule, hein, des jeunes qui viennent de l'université de George Washington University et aussi Georgetown University. Ce sont des étudiants qui ne sont pour la plupart, en tout cas pour la majorité d'après moi, et Anna peut-être sera d'accord avec moi, ils ne sont vraiment pas pour Donald Trump. Et on sait le voir, il y a des signes, il y a des chants qui ne sont pas, je ne peux même pas dire à la tête, je ne peux pas passer à la tête, mais clairement, ils ne sont pas contents. Voilà, c'est là où nous sommes en ce moment, ils disent ça.
Merci encore une fois. Alors, Tim?
Oui, alors on nous signale que nous avons en ligne le professeur Edgar Colley de Californie. Bonsoir, professeur.
Bonsoir.
Alors, comment lisez-vous les résultats provisoires et partiels de ces élections américaines, de cette présidentielle? On sait que Mme Hillary Clinton a remporté, comme on s'y attendait, la Californie et ses 55 grands électeurs, mais cela n'a pas suffi pour qu'elle remonte, qu'elle refasse le retard qu'elle a en ce moment face à Donald Trump. Alors, quelle lecture faites-vous de cette élection?
Eh bien, je pense que le message de M. Trump a porté ses fruits. C'était un message simple, direct, et qui s'adressait à un certain type d'électeur. C'est l'ouvrier, ou si vous voulez, l'Américain de la classe moyenne, n'est-ce pas, qui se sentait un peu défavorisé par le système actuel. Et donc, le message de Donald Trump, c'était tout simplement renégocier les accords commerciaux, ramener ce qu'il appelle, bien entendu, les emplois qui ont été délocalisés en Chine, et aussi, bien entendu, ce fameux mur, etc., etc. Donc, nous avons ici un message simple, même s'il n'entre pas dans les détails de ce qu'il va faire. C'est un message qui a touché tous ces gens-là qui se sont sentis écartés, marginalisés par le système des deux partis. Et donc, ils ont répondu favorablement à ce message. Et aujourd'hui, nous voyons concrètement, à partir de cette élection, les résultats que M. Donald Trump reçoit. Et donc, ce sont ces gens-là qui ont souscrit à son message, qui, même s'il n'est pas, comme je viens de le dire, ne donne pas beaucoup de détails dans ce qu'il va faire réellement dans le futur, mais il leur donne un certain confort. Il y a au moins quelqu'un qui nous écoute, quelqu'un qui ne fait pas partie de la classe politique traditionnelle, et donc quelqu'un qui, d'après, n'est-ce pas, sa réussite professionnelle, pourrait être une personne capable de changer les choses à Washington.
Donc, alors, ainsi, oui. Oui, professeur Colley, un message qui a donc été entendu par beaucoup d'électeurs dans le Michigan où Mme Clinton est en difficulté, un message qui a été entendu dans l'Ohio dont le gouverneur Mike Kasich pourtant était opposé à Donald Trump, était son adversaire aux primaires et avait clairement dit qu'il n'allait pas soutenir Donald Trump. Eh bien, Monsieur Trump a quand même gagné dans l'Ohio.
Il a gagné haut la main parce que si vous vous souvenez au niveau des primaires, même si M. Kasich a gagné, c'est justement par rapport à son poste de gouverneur. Mais à part cela, M. Kasich avait un programme national, si vous voulez, et qui semblait ne pas s'adresser à la population qui vote en majorité pour Donald Trump. Dans le Michigan, nous avons une population ouvrière et tous ces gens-là s'inquiètent, n'est-ce pas, de leur futur. Et donc, ils sont séduits par cette idée de renégocier encore une fois les accords commerciaux entre les États-Unis et différents partenaires et aussi l'immigration. Ce sont des choses qui ont touché le cœur de l'Amérique. Quand je dis le cœur de l'Amérique, je pense plutôt à l'Américain moyen, la classe ouvrière.
Merci, professeur Edgar Colley, qui nous parlait de Californie. Restez avec nous, professeur. Timothée, je tiens vraiment à rappeler à nos auditeurs que rien n'est encore décidé. Bon, ils pourraient croire avec, comment dirais-je, les commentaires qu'ils entendent actuellement, que la partie est jouée et que Donald Trump est le prochain président. Ce n'est pas encore décidé, mais il est nettement en tête et il a renforcé ses chances et il a surpris dans pas mal d'États, non seulement en remportant les États qu'il devait remporter, mais en étant très concurrentiel, si je puis dire, dans certains États qui traditionnellement sont démocrates. Alors, René Lake, vous êtes là, toujours avec nous ?
Toujours là, Idrissa.
Alors, donc, comment est-ce qu'on peut, en fait, en regardant le succès que Donald Trump a eu hier soir, comment est-ce qu'on peut expliquer que beaucoup de gens, même au sein du Parti républicain, n'est-ce pas Et on parlait tout à l'heure de l'Ohio, le gouverneur de l'Ohio a même boycotté la convention qui se tenait dans son propre État pour montrer qu'il n'était pas du tout d'accord avec Donald Trump et qu'il n'allait pas du tout l'appuyer. Et il y a eu des généraux, il y a eu d'anciens experts de la politique étrangère, des membres éminents du Parti républicain qui ont dit qu'ils n'allaient pas le soutenir, qu'ils n'allaient pas faire campagne pour lui. Et malgré ça, il est là, à la portée de la présidence.
Oui, mais écoutez, moi je crois, Idrissa, que ce qui s'est passé, l'élection de Barack Obama a été une sorte de séisme dans la classe politique traditionnelle américaine. Et je pense que le Parti républicain a eu une réaction, je ne sais pas si on peut dire émotive, parce que je ne pense pas, je pense que c'est lié aussi à des intérêts accumulés sur des années, voire des siècles. L'élection de Barack Obama a remis en cause énormément de questions, ne serait-ce que d'un point de vue symbolique, mais également d'intérêts. Et je crois que le Parti républicain a répondu d'une manière relativement négative. Et le Parti républicain s'est quasiment opposé à Barack Obama pendant toute une période. Et du coup, le parti a commencé à promettre des choses dont il n'avait pas les moyens. La suppression du Obamacare, par exemple. Il n'avait pas les moyens et donc, du coup, il a commencé à se discréditer par rapport à ses propres électeurs, par rapport à ses propres militants. Et ils ont commencé à se dire, à se radicaliser, parce que dès qu'on est un peu désorienté par rapport à ses dirigeants, on a tendance à se radicaliser. Et il y a eu les Tea Party, un certain nombre d'évangélistes qui ont commencé un peu à saisir un peu cette opportunité-là qui était ouverte. Et je crois que Donald Trump a bien compris cela. Il a sauté sur l'occasion et je crois que c'est ça qui le porte aujourd'hui. Il a développé un discours ultra populiste et ça marche très fort, ça a très bien marché pour lui. Et on le constate ce soir.
Tim ?
Oui, alors nous essayons de joindre quelques-uns de nos confrères qui sont en visite ici aux États-Unis. Non, on a quelques soucis de ce côté. Et dans tous les cas, rappelons à nos auditeurs qui sont à l'écoute d'une édition spéciale élections américaines 2016 sur les ondes de VOA Afrique avec Idrissa Seydoudia et Timothée Donangmaï. Et donc, vous l'avez dit tantôt, Idrissa, grosse surprise dans la course à la Maison Blanche avec le républicain Donald Trump qui est en avance dans les résultats avec 245 grands électeurs engrangés contre 215 à Madame Hillary Clinton. Rien n'est encore joué. Il y a un certain nombre d'États qui n'ont pas encore rendu leur verdict. Ce n'est qu'après qu'on saura qui sera le prochain président ou la prochaine présidente des États-Unis.
Alors, c'est le Michigan, le Wisconsin et le Minnesota, mais particulièrement le Michigan et le Wisconsin. Et ça, c'est très important.
Oui, la Pennsylvanie également, avec 20 grands électeurs.
Exactement.
Et c'est l'un des grands États qui reste en jeu en ce moment.
OK. Alors, on me signale, Tim, qu'on a toujours avec nous le professeur Edgar Colli et le professeur Ngemiya Lengi, qui est historien d'origine congolaise. Alors, professeur Edgar Colli, il n'y a pas eu de suspense dans votre État. Il est allé carrément à Hillary Clinton, comme ça a été le cas récemment lors des élections présidentielles. Et d'aucuns avaient pris le cas de la Californie pour dire que c'était en quelque sorte la leçon que devraient tirer les républicains, n'est-ce pas, de toute autre stratégie qu'ils devraient suivre pour gagner, parce que ce sont surtout les Hispaniques qui ont transformé la donne dans l'État de Californie et que si les Républicains voulaient gagner dans le reste du pays, ils devraient voir ce qui s'est passé en Californie et en tirer les leçons. Apparemment, Donald Trump n'avait pas lu le même rapport.
Il n'a pas lu le même rapport, mais en ce qui concerne la Californie, c'est un État acquis au Parti démocratique. Ils ont toujours voté le Parti démocratique depuis de longues années. Mais le succès de Donald Trump à l'extérieur de la Californie, si vous voulez, il repose sur cette idée que les républicains, le Parti républicain qui s'est opposé à Barack Obama n'a pas su, capitaliser sur la majorité que ce parti détenait au niveau de la Chambre des représentants et du Sénat. Et donc aujourd'hui, le succès de Donald Trump, même si les Hispaniques ont voté, je suppose, en majorité pour le Parti démocratique, à l'extérieur de la Californie, dans ces États que Donald Trump a gagné, les Hispaniques demeurent quand même une force politique importante, une force politique toujours minoritaire.
Merci, merci professeur. Alors, professeur Ngemiya Lengi, vous êtes à New York et New York a été massivement pour Hillary Clinton, bien que ce soit aussi l'État de Donald Trump.
Oui, évidemment. New York, c'est un cas spécial parce que c'est à majoritaire démocrate. Donc, Donald Trump qui a grandi ici, qui a aussi des business ici, mais il ne comptait pas sur New York. Mais alors, du point de vue du reste du pays, je ne sais pas si on peut parler de la providence, parce qu'il nous semble que ce que Donald Trump avançait et les forces dont il... Et qui s'opposait à lui, comme vous l'avez dit, M. Idrissa, tantôt, que tous les républicains, comme John McCain et tous les autres, étaient contre Donald Trump. Mais ce qu'il a fait, on peut même qualifier ça de la providence. Mais je crois qu'il y a un professeur qui a dit que la simplicité de son message, ça c'est un, et de deux, le fait que pour lui, il disait au peuple américain que voilà, tous ces politiciens sont contre moi parce que moi, je suis contre ce qu'ils font et que nous voulons changer les États-Unis d'Amérique pour que ça ne continue pas comme d'habitude entre les politiciens. Je crois que ce simple message a pesé lourd sur la conscience des Américains, et ce n'est pas seulement parce que ici, par exemple, on dit des Latinos, des Africains américains ou Noirs américains, des ethnies, mais le message de Donald Trump, c'était un message qui parlait de l'Amérique, des États-Unis d'Amérique.
Merci. Voilà. Merci, professeur. Restez avec nous, toutefois, parce que nous allons continuer dans un instant la couverture de cette élection présidentielle des États-Unis qui s'est tenue hier ici aux États-Unis avec nos invités. Il est 6 heures, temps